Slate Podcast.
Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Julia, qui se demande pourquoi nous ne sommes pas toutes égales dans la construction.
Bonjour Lucille, je m'appelle Julia, j'ai 28 ans et je suis célibataire. Ma question c'est pourquoi nous sommes autant de filles autour de la trentaine, des filles sympas, équilibrées, plutôt bien dans nos baskets, et pourtant nous n'avons pas rencontré l'amour. Pas forcément le prince charmant, mais celui qui saura nous aimer, que nous aimerons en retour, avec qui nous aurons envie de construire une histoire, voire une famille. Les copines commencent à avoir des enfants, elles sont mariées, et même si tout n'est pas toujours rose, elles sont heureuses et épanouies dans leur couple. Je ne comprends pas pourquoi la vie ne nous a pas accordé cette chance. Dans mon cas, je n'ai pas besoin d'être en couple. J'en ai seulement envie. J'ai eu des histoires, un premier amour génial, puis un garçon qui m'a ruiné, ensuite un garçon parfait, mais que je n'ai pas réussi à aimer. Et pour finir, un coup de foudre réciproque, mais qui n'a mené à rien. Et tout cela entrecoupé de quelques petites histoires insignifiantes. Donc voilà, je voudrais comprendre pourquoi certaines arrivent à construire et d'autres non. Je pense qu'au fond, dans mon cas en tout cas, j'ai peur de finir seule. J'ai confiance en la vie et dans le destin, mais c'est difficile de toujours devoir se relever et d'être patiente. En tout cas, merci pour ton aide et tes podcasts.
Chère Julia, c'est quoi un bon chemin de vie? Quand est-ce qu'on a coché toutes les cases? Moi, à 25 ans, j'étais mariée, j'étais en train de réfléchir à faire un bébé. Je venais de redécorer notre plutôt grand appartement, j'avais un chat. Je pense que pour tout le monde, j'étais à ce moment-là en train de cocher toutes les cases. Et puis j'ai divorcé. J'ai tout perdu. Je me suis perdue et j'ai recommencé ma vie de zéro, comme si rien de ce qui s'était passé les années précédentes n'avait eu lieu. C'était là, précisément là, que je me suis rendu compte que la checklist de la réussite était une gigantesque connerie. Je n'allais jamais avoir de pavillon avec un jardin et un chien, parce que je n'en avais pas du tout envie. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'enviais les gens qui avaient tout ça. Je n'enviais même pas leur bonheur, quand j'y repense, mais juste l'impression que j'avais qu'ils étaient plus adultes, plus installés. Oui, si on applique à la vie ce rapport de liste avec des impératifs à cocher, certaines personnes semblent réussir plus vite, ou mieux que d'autres. Je m'en veux moi-même de sortir une telle banalité, mais en réalité c'est une question de temps. Et nous ne sommes pas tous égaux et égales là-dessus. Mais en fait, ce n'est pas du temps pour adopter le Labrador et prendre un crédit sur 25 ans dont on a besoin, mais de temps pour trouver sa propre voie personnelle. Il n'y a pas une voie. Il n'y a pas de bonne voie pour tous. C'est ce qui justifie une partie des divorces, des reconversions professionnelles, des familles recomposées. J'ai maintenant 35 ans, et je ne suis pas propriétaire d'un pavillon. Je n'ai toujours pas de Labrador. Et à vrai dire, je ne connais personne qui a coché ces cases non plus. Par contre, je me suis trouvée, avec ma voix unique, qui me fait dire aujourd'hui que je suis heureuse et que je réussis ma vie. Autour de moi, chez mes amis qui ont plus ou moins mon âge, se trouvent des personnes qui ont des parcours que l'on qualifierait d'atypiques, si l'on considère que mariage, pavillon, labrador est la norme. Beaucoup de gens qui se cherchent encore aussi. C'est un work in progress, un travail qui commence quand on déconstruit ce cliché de la vie parfaite. Et cette déconstruction prend du temps. Il faut se poser les questions. Qui je suis et qu'est-ce que je veux vraiment au fond? Peut-être que pour certaines personnes, le schéma mariage-pavillon-labrador sera la meilleure façon d'atteindre le bonheur. Mais je crois que pour la majorité, ce ne sera pas le cas. Peut-être que dans certains de ces cas, ils feront semblant, un temps, comme moi, avant de se trouver vraiment. Je crois qu'on est tous égaux sur un point. Au départ, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va. Il faut accepter cette introspection, se regarder en face, apprécier les chemins de traverse, mesurer à quel point rien n'est en fait une perte de temps. Chaque jour qui passe, qui permet de mieux se connaître, c'est un jour qui nous rapproche de l'équilibre, de la sérénité et du bonheur. Pour parler de construction, j'ai téléphoné à la coach en développement personnel, Raphaël Dian. Raphaël Dian, bonjour.
Bonjour.
Quand on parle de personnes qui réussissent à tout avoir dans la vie et d'autres pas, et en général quand on en parle c'est parce qu'on fait partie de ceux qui n'arrivent pas à tout avoir, est-ce que vous pensez qu'on ne parlerait pas plutôt de personnes qui arrivent plus naturellement à se définir des objectifs et qui ont des chemins du coup plus simplement tracés en fait, ils ont un but et ils y arrivent, ou ils essayent d'y arriver?
En effet, quand on parle de réussir à tout avoir, ou plutôt de réussir à se construire, il faut inévitablement explorer sa capacité à désirer. Je m'explique, pour me construire et me réaliser, je dois d'abord savoir ce dont j'ai envie. Vers quelle construction est-ce que je me dirige, qu'elle soit amoureuse, familiale, professionnelle, quel est mon rêve de construction à ce stade de ma vie, et le définir clairement. Ensuite, la trajectoire est plus précise pour prendre des décisions et mettre en place des actions.
Oui, c'est ça. On ne peut pas dire « je n'arrive pas à tout avoir alors que d'autres y arrivent », et en partant du principe que c'est un peu une question de chance, si on ne sait même pas ce qu'on veut de base, quoi.
Exactement, c'est tout à fait ça. Je pense que le travail initial, c'est d'abord de se poser et de se demander où est-ce que j'en suis à ce stade de ma vie et quel est mon objectif. Et une fois qu'on a défini précisément un objectif, encore une fois, quel que soit le domaine de vie, alors là, il faut mettre des actions précises en place pour pouvoir y arriver.
Vous travaillez dans le cadre de votre travail de coach à permettre aux personnes à mieux définir leurs objectifs, du coup, et à mieux se connaître, également dans le cadre de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que tout est lié, en fait, le personnel comme le professionnel?
Oui, il me paraît assez évident qu'une personne épanouie dans son travail dispose d'une énergie positive quand elle rentre chez elle le soir. Et ça, ça change tout. Pour réussir sa vie personnelle, il ne s'agit pas seulement de faire au mieux dans ce cadre-là, nous ne sommes pas de nature à compartimenter. Même ceux qui pensent le faire ne sont souvent pas conscients de l'impact qu'un domaine a sur l'autre. Et c'est d'ailleurs d'autant plus dangereux. Tout est question d'équilibre. Les domaines de vie se complètent, se rechargent même les uns les autres d'une certaine manière. Une mauvaise journée de boulot peut avoir de vraies conséquences sur notre vie amoureuse ou familiale. À l'inverse, si on est accueilli par un geste ou une attention spéciale, alors le perso peut contrebalancer la mauvaise journée ou en tout cas la fait passer au second plan. Il est fondamental de laisser derrière soi son travail quand on quitte l'espace pro, mais aussi très important de savoir faire des ponts quand c'est nécessaire. Si quelque chose vous tourmente, il est naturel et souvent productif d'en parler à votre conjoint ou à votre famille. D'une part pour expliquer votre état d'esprit ou votre énergie basse, et d'autre part pour en discuter et pouvoir ainsi prendre du recul sur une situation.
Est-ce que les conseils d'une coach a du sens dans le cadre d'un conseil pour la vie en général? C'est-à-dire qu'en France, on a cette espèce de... On n'a pas encore la culture du coach, et on l'a uniquement dans un cadre professionnel. Est-ce que pour la vie amoureuse, la vie personnelle, la vie en général, est-ce qu'une coach a du sens?
C'est vrai que sur le modèle français, le coaching est assez ciblé entreprise, en tout cas dans l'esprit collectif. En revanche, le coaching est plutôt ouvert à tous et traite toutes sortes de problématiques. Certains vous diraient que ce sont des thérapies nouvelles. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une thérapie active. Plus concrètement, j'accompagne les personnes à se transformer, à faire des choix souvent difficiles, à dépasser leurs peurs. Le coach a pour objectif d'optimiser le potentiel de son client dans son intégralité, d'aller chercher au fond de vous l'énergie pour avancer et vous dépasser. Ce qui me frappe le plus depuis que j'exerce ce métier, c'est à quel point les gens redécouvrent ce qu'implique être fier de soi, avoir réussi, même une petite chose, mais que l'on pensait impossible ou irréalisable. Parfois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce, d'un soutien, d'un partenaire, et c'est là que j'interviens.
D'accord, donc on peut venir vous voir à votre cabinet avec une problématique à laquelle on n'aurait peut-être pas pensé ou on n'aurait pas osé, justement, de réalisation de soi, de se dire « je ne sais pas où j'en suis de ma vie amoureuse ou de ma vie personnelle ». Vous pouvez aussi traiter ce genre de choses.
Exactement. On fait et du coaching pro, mais on intervient dans tous les domaines de vie, aussi pour des petites choses, aussi pour des explorations. Parfois, on est juste perdu, on a besoin un peu d'aller explorer où on en est dans sa vie. Et du coup, notre travail, c'est vraiment de mettre en place l'objectif prochain pour toujours être dynamisé, pour toujours avoir une perspective.
Est-ce que vous faites des suivis sur le long cours? Alors, je pense dans le cadre d'une réalisation de vie, des suivis sur 5 ans, 10 ans. Comment vous travaillez en général?
Alors, il n'y a pas vraiment de règle générale. On travaille parfois sur une très courte période, soit parce que l'objectif est défini en amont, déjà connu par le client et assez précis, soit parce que la problématique demandait juste un petit déclic ou une compétence supplémentaire à éclairer. Habituellement, ça prend quand même plus de temps. Je dirais en moyenne entre 3 et 6 mois. J'accompagne beaucoup sur des problématiques d'estime de soi. Et ce travail, par exemple, regroupe des domaines assez denses, comme la connaissance de soi, l'acceptation, les croyances. Ce sont des plus gros morceaux qui nécessitent un temps d'analyse, de compréhension, avant de pouvoir mettre en place les changements de comportement. Donc oui, là, on est sur des périodes un peu plus longues.
Mais pour l'instant, vous n'avez pas travaillé avec des gens qui sont revenus vous voir au bout de quelques années pour résoudre d'autres choses ou on peut imaginer ce genre de suivi ?
Oui, tout à fait. On peut tout à fait imaginer. Et d'ailleurs, j'en ai dans mes clients, des personnes qui viennent pour un objectif précis ou une problématique précise. On fait ce travail, il est abouti. Très bien, les personnes reprennent le cours de leur vie et à nouveau, à un moment, se représente une problématique et refont appel à nous. Exactement comme une piqûre de rappel, comme avoir à ce moment-là à nouveau besoin d'un soutien ou d'un accompagnement pour réaliser quelque chose de nouveau ou explorer quelque chose de nouveau.
Et vous êtes à disposition, au moment des problématiques, contrairement à une thérapie longue, une thérapie, on peut imaginer, de psychanalyse, ce sont des choses qui durent sur des années. Là, vous êtes sur le moment et la réponse tout de suite, en fait, même si ça prend quelques mois parfois.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des thérapies actives. C'est que même si l'analyse est fondamentale, au moment où un client vient nous voir, on essaie vraiment de travailler sur la problématique du moment pour pouvoir la dépasser et soulager et avancer et avoir vraiment le sentiment qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie.
Est-ce que vous avez des conseils de lecture pour les personnes qui sont désireuses d'en savoir plus sur le sujet, à la fois du coaching et de la réalisation de soi ?
Oui, j'ai des super bouquins à vous proposer. Ça a été difficile pour moi de faire un choix, donc j'en ai sélectionné 4. Le premier qui s'appelle « Le voyage du héros », c'est écrit par Stephen Gilligan et Robert Dilts. C'est un livre autour du concept du changement génératif. En fait, il traite de façon très concrète du changement. Vraiment, on est autour de la transformation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, pour se transformer et donc pour se réaliser? Il traite vraiment de l'identité profonde et qu'est-ce que c'est que la réorientation et comment je peux me réorienter. Donc ça, c'est assez concret. Ensuite, un très bon bouquin qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg. C'est sur les méthodes de communication non violente et comment elles permettent de sortir grandi de beaucoup de situations délicates, conflictuelles. C'est un très bon livre pour accompagner ceux qui doutent de leur communication au quotidien. Les deux petits derniers pour la fin. Le premier, c'est Laurent Gounel, « L'homme qui voulait être heureux ». C'est un vrai petit bonheur, c'est un livre très court, un vrai voyage intérieur. On se balade avec cet homme en pleine crise de conscience et vraiment, c'est un régal. Et puis mon favori, qui est beaucoup moins pragmatique, c'est un roman pur jus, mais qui m'a littéralement émerveillée. Ça s'appelle Egoman et c'est Serge Marquis qui l'a écrit.
Merci beaucoup, Raphaël Dian.
Avec plaisir.
Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le film Jeune femme de Léonore Serrae. Cette comédie dramatique pose la question de la quête de soi, à son rythme, en nous faisant suivre un personnage truculent, aussi perdu qu'attachant. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire restent toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. C'est compliqué le podcast reviendra cet été avec 2 hors-série et en septembre pour une saison 4. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.